quelles sont les forces en présence, pour continuer son panorama, eh bien, la France aligne 23 escadrilles qui comptent donc une flotte de 124 appareils. À ces 124 appareils, il faut ajouter les 140 appareils environ qui sont répartis soit dans les centres d'entraînement, soit qui sont en réserve à l'arrière, et très rapidement, vu l'essor que va prendre l'aéronautique, auquel on va insister dans quelques minutes, tous ces appareils sont réquisitionnés, y compris d'ailleurs les appareils qui étaient en construction chez les avionneurs, comme on dit aujourd'hui, et qui étaient destinés à des marchés étrangers. En face, l'Allemagne aligne, comme vous pouvez le voir, 252 appareils, mais il faut dire que les troupes du Kaiser attaquent sur deux fronts, le front russe et le front continental. Alors, au front, c'est-à-dire à l'avant, on considère, enfin, pendant la guerre 14-18, on oppose, c'est complémentaire bien sûr, l'avant, c'est le front, et l'arrière, bien ce sont les travailleurs, ce sont les ministères qui sont mobilisés pour mener le combat. Donc au front, la base de l'organisation est l'escadrille, ça n'a pas changé, et cette escadrille compte 6 appareils, sauf les escadrilles reliées à la cavalerie qui comptent 4 machines seulement. Chaque formation, chaque escadrille est rattachée à une armée. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de force aérienne indépendante, donc chaque escadrille est rattachée à une armée. L'armée française aligne en août 1914 5 armées, une sixième entre en service, je crois que c'est autour du 26 août 1914, et donc chaque escadrille est liée à cette armée. Et chaque escadrille, comme vous pouvez le voir, est nommée par le type d'appareil qu'elle met en œuvre. MF, Maurice Farman, BL, Berriot, ensuite nous avons BR, Bourguet, HF, Henri Farman, je passe...
V, Voisin,
ce sont des Dorans. Les deux Berdussin, pardon, excusez-moi, les Dorans c'est un peu plus tard. T comme deux Berdussin, REP comme Robert Esteau Peltori, l'inventeur du manche à
balai.
Et qui a en charge cette aéronautique au front, c'est-à-dire à l'avant? Eh bien, c'est le lieutenant-colonel Jules Voyer, qui est pilote de dirigeable et qui ne connaît pas grand-chose à l'aviation, en tout cas aux aéroplanes ou aux avions. Pendant ce temps, à l'arrière, les questions aéronautiques sont reliées à une direction d'aéronautique, et c'est elle qui a la charge des forces aériennes. Cette direction aéronautique s'occupe des productions et de la formation des personnels. Et elle est complétée par un service qui s'appelle le service des fabrications de l'aéronautique, le SFA, dont on va reparler un petit peu plus tard, qui est lui chargé de commander les nouveaux matériels aux constructeurs. En août 1914, c'est un artilleur, le général Félix Bernard, qui a en charge l'aéronautique au ministère de la Guerre. Et une des premières décisions, ça c'est connu ça, une des premières décisions du général Bernard, c'est de fermer le SFA, c'est de fermer les écoles de pilotage et de renvoyer tous les personnels dans les unités d'infanterie où on pense qu'ils seront bien sûr beaucoup plus utiles. Et comment le lui reprocher quand on se place, quand on se replace dans le contexte de l'époque, puisque je vous le rappelle, hein, parce qu'aujourd'hui on sait que la durée de 14-18 n'est pas la durée de 4 ans, elle est longue, mais à l'époque on est parti pour une guerre courte. Une guerre courte, 6 semaines, une guerre courte et victorieuse. Alors maintenant, quelles sont, on l'a un peu abordé tout à l'heure au travers de l'instruction de 1912, on va la revoir finalement ici, on ne s'est pas trop coordonné avec Claude, mais finalement le lien est bien fait. Quelle est la doctrine d'emploi de l'aviation? Eh bien, j'ai repris exactement la même note, hein, du 27 novembre 1912, l'instruction sur l'aviation et l'emploi en aéronautique en anglais. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur cette note? Eh bien, ce qu'on a lu tout à l'heure, que l'aviation est cantonnée dans des missions de reconnaissance d'observation. Les aéroplanes sont essentiellement des organes de reconnaissance. Leur mode d'action leur permet de franchir le réseau de sûreté. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de lacs, il n'y a pas de collines qui puissent les arrêter. De reconnaître les mouvements des colonnes et d'éclairer l'armée à une distance suffisante pour écarter tout risque de surprise tactique.
Stratégique.
J'ajoute, je ne l'ai pas mentionné ici, que le paragraphe d'après, nos chars militaires mettent en garde tout de même un général qui ferait trop confiance à son aviation, de manière tout de même à équilibrer un petit peu les choses. D'un point de vue offensif, on l'a vu aussi tout à l'heure, dans l'instruction, les avions sont des moyens d'interception des dirigeables tout à fait envisagés par les militaires. Mais la mission d'appui tactique et encore moins la chasse ne sont envisagées par les militaires de l'époque. À l'heure actuelle, les aéronefs ne peuvent attaquer une troupe qu'à condition de courir eux-mêmes des risques sérieux en cessant de se tenir hors de portée des armes. Et puis, la lutte entre aéroplanes n'est pas envisagée actuellement, n'est pas à envisager actuellement. Et c'est signé Alexandre Legrand, ministre de la Guerre. Donc on le voit, le rôle de l'avion est, comme vous pouvez le voir, très modeste. Mais encore une fois, replaçons-nous dans le contexte, comme tout à l'heure avec la fermeture du SFA et des écoles de pilotage. Replaçons-nous dans le contexte. Et il faut dire que les performances, on l'a abordé un petit peu, les performances des avions d'époque n'incitent guère à se servir davantage de ces appareils, de ces machines. J'en arrive donc à ma troisième planche. Quels sont ces appareils disponibles? Alors, nous avons... L'armée française aligne 9 types d'appareils différents, 9 types d'appareils différents, des biplans, on peut le voir, des caudrons, des Farman, des voisins, des Breguet, et des monoplans, des Blériot, des Deux-Pères-du-Sein, des REP et des Nieuport. Rapidement, d'autres machines vont rejoindre le front, des Doran et des Morane-Saunier, en particulier le Morane-Saunier Parasol, qui va tenir le premier avion de chasse de l'armée. Tous en accord avec la mission dévolue à l'aviation, sont biblas. Ils emmènent le pilote, bien entendu, et un observateur en place avant ou en place arrière. On peut le voir sur ces images, systématiquement, on a deux personnes à bord. Les machines, comme vous l'a dit Claude, ne volent pas par tous les temps. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il y ait d'orage, hein, c'est assez risqué. La charge utile est très limitée. Et les moteurs, comme on a pu le mentionner également, puissance maximum, 130 chevaux. Vous voyez, c'est tout à fait modeste. Les performances, rapidement pour les rappeler, les vitesses maximum, les vitesses pardon, s'échelonnent entre 80 et 115 km/h maximum. C'est le moment de celui parasol qui détient le record. Le plafond est 4 mm maximum. L'autonomie de vol entre 2 et 4 heures. Et pour rejoindre 2000 mètres, la plupart des avions mettent 1h30 pour rejoindre 2000 mètres. Enfin, aucun de ces avions n'est armé. Et voler à bord de ces engins n'est pas de tout repos, vous allez voir. Quelques lignes pour vous rappeler, un témoignage, celui de l'observateur Pierre Bardou. Ma première sensation, la trouille. Il faut avoir un certain courage, avoir une certaine inconscience pour monter à bord de cette rapanelle faite de bois, de cordes à piano et de toile. La première fois que j'ai mis les fesses dans un avion, je me suis juré que toute ma vie, je n'y remonterais plus. Tellement j'ai été partagé entre le rêve, il mentionne quand même le rêve, hein, que j'avais autrefois, quand il était encore au sol, et la réalité de ce bruit terrible, de cette fragilité, il insiste sur le terme de fragilité, qui me transportait dans un monde étonnant où j'ai eu très peur. La suite juste du témoignage, c'est que arrivé à terre, un officier lui a dit de remonter sur l'avion et de repartir tout de suite, il l'a fait, et il a voulu même qu'il a eu un petit peu moins de peur. Donc le vol dans ces conditions est une véritable épreuve physique. Très peu de, comme on le dit encore aujourd'hui, comme les pilotes le disent encore aujourd'hui, on pilote l'avion aux fesses. Les instruments sont rudimentaires. Hein, on le voit sur cette photo d'un cockpit. Un cockpit est un mot sans doute un peu exagéré. D'un Farman 11, l'avion d'observation et de bombardement, on distingue la planche de bord pour son itinéraire, et puis quelques instruments, un altimètre, une pression d'huile, mais vraiment très très rudimentaire. C'est pas grave, on ne pilote pas l'avion aux instruments, on le pilote aux sensations. Le pilote est à l'air libre, on le pilote avec les fils d'air, on le pilote avec le vent, on le pilote avec le son, le bruit du moteur, dont le pilote guette les moindres ratés. Il sait tout de suite que là, il faut se poser. Il n'y a pas de contour, il n'y a absolument rien. On voit aussi avec les vapeurs d'essence, pour oublier l'essence, et les gouttes d'huile qui sont projetées sur le visage du pilote, d'où les lunettes obligatoires et le chiffon à côté pour essuyer les lunettes. Ça, c'est le manque obligatoire. Les organismes sont soumis, eux aussi, à une rude épreuve. Même avec un... Donc même avec une tenue adéquate, et on peut le voir sur la photo, manteau de fourrure, casque, foulard, pantalon cuir, les températures à haute altitude, bon, 2000 à 4000 mètres, les températures sont quand même négatives. Et donc il n'est pas rare que les équipages reviennent avec des gelures, des engelures sur les membres ou sur le visage. Voilà ce que c'est que l'aviation au début de la guerre. Et je termine cette partie juste par vous citer quelques phrases du capitaine Georges Bélanger. Alors Georges Bélanger, c'est le brevet de pilote militaire numéro 3, tout de même, et c'est le commandant de l'aviation de la 6e armée. C'est une armée dont on va parler un petit peu plus loin, qui va déceler le mouvement tournant de l'armée allemande pour prendre à revers les Anglais et les Français, et ce qui va déclencher la bataille de l'armée. Donc qu'est-ce qu'il dit, Georges Bélanger ? Il y a eu un scepticisme d'abord sur l'avion lui-même, comme moyen de reconnaissance, et en second lieu sur l'armement des avions. Un certain nombre d'officiers craignaient que les réactions de l'arme provoquent la dislocation, que l'avion perde ses ailes. On imagine un petit peu comme le lait dans les pieds des vaches qui devait tourner en regardant passer les trains. Mais en définitive, à force de reconnaissance réussie, et c'est ça le plus important, à force de reconnaissance réussie, de photographies rapportées, de bombardements effectués avec des moyens primitifs, l'aéronautique militaire a fait sa place. Il ne faut pas se cacher que cette évolution a eu lieu surtout du fait des tentatives des aviateurs pour se rendre utile. Et bien voilà, on voit au travers de ces paroles, qu'est-ce qu'on disait, que le besoin a été créé et que donc certains, par leur improvisation, y ont répondu. Ce sont des aviateurs qui ont innové. C'est la base qui a innové. Et j'en arrive donc à cette deuxième partie. L'aviation accède au rôle de véritable arme. Donc c'est de la zone avant, où on a pu voir, que va partir la réorganisation de l'aviation. La modeste place accordée à l'avion par le commandement, ainsi qu'une certaine liberté d'action, j'ose à peine dire de loisir, mais elle est parfois mentionnée dans quelques ouvrages, permettent à des hommes imaginatifs d'improviser et d'expérimenter de nouvelles utilisations de l'appareil. Ces improvisations, quelles sont-elles ? Eh bien, au retour d'une mission d'observation, certains équipages ont emporté des fléchettes, oui, des fléchettes pour BOL, une invention de Clément Ader, puisqu'elle est mentionnée dans son ouvrage L'aéronautique militaire de 1911, donc des fléchettes bombes qu'ils lancent sur les troupes au sol par paquet de 500. Hein, on voit dans le casier, il y a 500 fléchettes. Alors, une fléchette bombe, ça a à peu près une dizaine de centimètres de longueur, et c'est en fer, et bien sûr c'est pointu au bout, comme chacun le sait, les fléchettes, et on a une image là. Gravure où on voit tomber comme dans la pluie, comme à Pavlov exactement, en 1910, comme à Pavlov c'est fléché. D'autres équipages vont emporter des obus d'artillerie, alors des obus 90, parce que le 75, on l'a mentionné, était quand même réservé à notre fameux permis de 75 qui avait été parti de la guerre, et donc ils vont lancer à la main des obus sur. Sur les troupes au sol. Alors, il n'y a pas de viseur, on lance au jugé, on essaie de calculer un peu comment est le vent, et on verra bien quel effet ça a. Et puis, d'autres équipages vont aider les unités d'artillerie à régler leurs tirs, soit par signaux, soit par mouvement d'avion. Et puis d'autres vont commencer à emmener des postes TSF pour pouvoir correspondre avec le sol. Et enfin, certains équipages vont emmener des pistolets, des revolvers, des fusils. À quoi sert cette arme ? Mais d'abord à se protéger, à se défendre si jamais on avait à atterrir dans les lignes allemandes. Et puis, puisque ces armes sont là, on va commencer à tirer sur les avions allemands que l'on croise au retour d'une reconnaissance, d'un aviatique ou d'un avion. Et le premier combat aérien intervient un petit peu plus tard. Deux événements marquants qui marquent l'avancée de l'aéronautique vers son statut d'arme. Un que j'ai mentionné au cours des journées du 2 et du 3 septembre 1914, lorsque plusieurs équipages, dont un d'ailleurs piloté par Le Breguet, le constructeur aéronautique, vont rapporter les mouvements des troupes allemandes, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la rotation de l'armée von Kluck, la première armée allemande, sur le sud-est de la France, pour prendre à revers les troupes anglaises et françaises qui étaient massées sur les frontières. Et donc, plusieurs équipages vont rapporter à leur commandement que les armées allemandes présentent leur flanc à l'armée française. Et le général Gallieni, qui commande à l'époque le
de Paris.
Le gouverneur de la place forte de Paris va convaincre le général Joffre de lancer les troupes qui étaient sur Paris, les passés de la Marne, etc. Et c'est la fameuse bataille de la Marne qui va permettre de stabiliser et d'arrêter les Allemands, donc de stabiliser les troupes. Deuxième événement qui contribue à changer les mentalités, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à savoir la première victoire aérienne de l'histoire de l'aviation, qui est remportée par le pilote France et l'observateur Queneau le 5 octobre 1914. Donc ils sont à bord de leur voisin. Je ne sais pas si on distingue le fusil mitrailleur qu'ils ont emporté, qu'ils ont monté, validé par la hiérarchie, mais un petit peu quand même. Du bricolage, ils ont monté leur fusil mitrailleur au-dessus, là, comme vous le voyez ici, et donc ils vont abattre un aviatique, un avion allemand qui est de retour de mission d'observation. Et on peut écouter ce que déclare Franz Queneau, le pilote Queneau. L'avion rentrait dans les lignes allemandes, donc il revenait d'avoir observé les lignes françaises. J'étais à peu près à 2000 mètres d'altitude, et lui 200 ou 300 mètres en dessous. Je me suis dirigé vers lui, ce qui m'a permis de piquer un peu et d'atteindre la vitesse exceptionnelle de 125 km/h. Et je suis arrivé juste derrière lui. Je crois qu'il ne m'avait pas aperçu. Là-dessus, Queneau, l'observateur, tire 47 balles et abat l'avion. Et le pilote enchaîne. Je me suis posé à peu près à 300 mètres de l'épave. Nous nous sommes rapprochés. Il faut dire que j'étais très ému, car dans l'aviation, on ne voyait pas de mort. Et je vous invite d'ailleurs à écouter ce témoignage qui est très émouvant et qu'on retrouve, puisque Franz Queneau a vécu jusqu'en 1980, 78 ou 80, et on le trouve sur Internet. Je vous invite à le regarder sur Internet, c'est très émouvant en effet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'aviation accède par ses différentes missions, par ses différentes improvisations au statut d'arme de ce moment. Et ça, ça va être reconnu, bien entendu, par le commandant. Donc les décisions de l'avant. J'ai 5. Oula, c'est très dur. Donc les décisions de l'avant, on peut le voir sur ce document donc, qui est daté du 10 novembre 1914. Tout d'abord, Joffre va nommer le commandant Barrès. Alors le commandant Barrès est un des rares officiers supérieurs à avoir son brevet de pilote. Et puis il a assisté aux fameux exercices et notamment à l'utilisation de l'avion pendant la guerre menée par les Italiens en Tripolitaine. Donc il a vu un peu comment on peut se servir de l'avion. Et qu'est-ce qu'il convainc Joffre, d'écrire. L'aviation n'a pas seulement, comme on a pu le supposer parfois, un instrument de reconnaissance, elle s'est rendue extrêmement utile pour l'auberge artillerique. Elle a montré que par le lancement de projectiles à explosifs, elle est en mesure d'agir comme une arme offensive. Enfin, elle a encore le devoir de pourchasser et de détruire les avions ennemis. On a la licence de la chasse. Les escadrilles doivent donc être spécialisées, au moins dans une certaine mesure. Je vais essayer d'accélérer. Donc l'arrière, réorganisation de l'arrière, puisqu'on a vu celle de l'avant, à l'arrière, et bien parallèlement, dans le même temps, tout ça se déroule en quelques semaines, en quelques mois. À l'arrière, c'est le général Hirschauer, qui est un ancien responsable de l'aéronautique militaire en 1912-1913, qui va prendre les rênes de l'aviation, il va réouvrir les écoles de pilotage, il va réouvrir le VCPA. Et il va lancer, pour accompagner les besoins de l'avant, des plans de production. Et il va rationaliser également les appareils au fond, ce qui fait que Blériot va fabriquer des caudrons, qui sont jugés plus efficaces, Nieubord, Breguet et Rêve des voisins, Morane va continuer à faire des moissonniers, et Farman des Farman. Juste un témoignage d'un futur acteur important de l'aéronautique, puisqu'il s'agit de Henri Potez. Qu'est-ce que déclare Henri Potez, qui est à l'époque officier au SFA, au service de fabrication de l'aviation ? Mon capitaine avait dans ses attributions de mener à bien la fabrication des caudrons G3, donc l'avion d'observation qui a été retenu par Barrès. Alors, naturellement, il nous a demandé, quand il dit nous, c'est lui et un certain Marcel Bloch qui va lui aussi faire carrière dans l'aviation. Ils sont camarades tous les deux au SFA, sous le nom de Marcel Casson, bien sûr. Il nous a désigné pour unifier la production de l'avion qui devait être reconstruit dans 5 usines différentes. 2 usines Rouleron, 2 usines Blériot et une usine de Pertussin. Les choses étaient assez complexes parce qu'on avait donné à Blériot les plans du G2 bis, de l'avion G2 bis, qui n'était pas du tout celui du G3. Par conséquent, tout est défaut, il a fallu tout corriger. Voilà, on voit vraiment c'est un bricolage et que tout ça a été lancé. Et puis on voit aussi, par ce graphique, que la production aéronautique va décoller, que ce soit au niveau des cellules ou des moteurs, puisque entre août-décembre 1914 et le premier trimestre 1916, elle va quasiment être multiple par trois. J'en arrive à la spécialisation des missions. Alors, je ne vais pas avoir le temps de m'arrêter sur tout ce qui est photographie aérienne, réglage de tir d'artillerie, reconnaissance. On va juste mentionner rapidement deux missions importantes. Le bombardement. Le bombardement, c'est la mission qui a eu le moins de mal à se dessiner dans l'armée, parce qu'on allait bombarder des centres névralgiques, des gares, des voies ferrées, et que donc on allait faire mal à l'ennemi plus loin que en dépassant la colline. Donc voilà, ça, ce sont les voisins LA5 qui vont être spécialisés dans le bombardement, et le commandant de Goyce peut être considéré comme le père du bombardement, puisqu'il va créer les groupes de bombardement, qui sont des groupes de bombardement autonomes. Il va en créer 4, et là on a le journal de marche, le journal des opérations du groupe de bombardement numéro 1. On peut citer quelques actions, si je retrouve quelques actions qui ont été menées. Le 27 mai 1915, et c'est ce qui est à l'écran, le groupe de bombardement numéro 1 attaque les usines chimiques de Ludwigshafen. Donc il lance 90 bombes sur ces usines. Il n'y a qu'un seul appareil qui ne revient pas, heureusement, c'est celui de Goyce qui va être prisonnier. Il va être fait prisonnier. Le 15 juin, ce sont 23 appareils qui s'attaquent à Karlsruhe, aux usines sidérurgiques. Et le 25 août 1915, hein, 62 appareils. Une flotte de 62 appareils. Déjà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a des boxes de centaines, 150 Lancaster ou 150 B-17. Là, on est quand même déjà à 62 appareils en août 1915. Donc il s'attaque au fourneau de Dillingen. Mais la réaction allemande ne va pas se tarder à se faire, et les chasseurs allemands, en particulier les aviatiques, les abattons, mais surtout des Fokker qui arrivent au front à partir de début 1915, vont faire la chasse au bombardement et vont conquérir la maîtrise de l'air pendant une bonne partie de l'année 1915. La deuxième mission que je voulais mettre en exergue, c'était la mission de la chasse, qui a été, comme le disait Claude, la plus longue à se dessiner. Pour deux raisons. D'abord parce que du point de vue doctrinaire, la chasse est menée ponctuellement pour la protection des avions d'observation et de bombardement, mais elle n'est pas instituée pour aviation de chasse elle-même, et surtout pour conquérir la maîtrise de l'air et la supériorité aérienne. Et puis deuxièmement, gros souci aussi technique, c'est le tir à travers l'hélice, qui est assez problématique. Donc les Français ont essayé de le résoudre en plaçant la mitrailleuse, comme vous pouvez le voir ici, au-dessus d'un bombardier de parasol sur le plan supérieur de l'aile, voilà, sur les ailes. Mais c'est pas très commode, et à ce propos, on peut noter, on peut avoir le mode opératoire, qui est assez compliqué, comme vous avez pu le voir. Il faut voir en quoi consistent les manœuvres de la mitrailleuse à bord d'un monoplace. Une fois les 47 cartouches tirées, on dit que ça c'est une mitrailleuse Hotchkiss, et la bande là, elle contient 47 cartouches, pas plus. Donc une fois les 47 cartouches tirées, le pilote cède péniblement des genoux pour tenir son manche à balai, donc il est debout, il tient son manche, toujours en mouvement bien sûr, hein, on ne s'arrête pas. Et en tâchant donc de maintenir l'appareil en ligne de vol. Il saisit son arme d'une main, il la rabat, vous voyez qu'elle est montée sur un pivot, il la rabat, il détache le disque de la mitrailleuse, il jette le disque au fond du fuselage, ça se sent-ci, okay. Il prend un disque et il va le remettre et l'armer sur la mitrailleuse. C'est une position un peu acrobatique quand même.
C'est du sport.
C'est du sport. Lorsque tout va à souhait, c'est là un travail qui nécessite au moins 30 secondes. Vous voyez, François, il faut déjà plusieurs. Pendant lesquels l'avion est à la merci de l'ennemi, qui peut gaspiller ses munitions sans crainte. Bien entendu, il n'y a pas de représailles. Alors ensuite, on a le célèbre Roland Garros, qui a traversé la Méditerranée en 1913, qui va installer des déflecteurs, comme on peut le voir, aux deux bouts de l'hélice, pour dévier la balle quand elle ricoche contre l'acier de la balle, et bien elle est éjectée de l'extérieur. Et puis, sur les Nieuport 11, 10 et 11, on a remis la mitrailleuse sur le dessus, on a repris. Donc c'est finalement le Hollandais Anthony Fokker qui, pour le compte des troupes allemandes, va mettre au point la mitrailleuse synchronisée. Voilà, bombardement, chasse, les deux missions principales de l'armée qui dessine. Et j'en arrive donc à la bataille aérienne de Verdun, qui est extrêmement importante et dont on va célébrer dans moins d'un mois maintenant le centième anniversaire, 21 février 1916, c'est le début de cette bataille. Alors vous connaissez tous cette image de Douaumont avant et après Voilà, c'est assez marquant, je trouve, et ça vous donne une petite idée, même très très lointaine, hein, de ce qu'on peut vivre les fantassins sur ce terrain du théâtre d'opération, bombardés non pas par l'aviation, bien sûr, hein, mais par l'artillerie allemande qui avait été regroupée là. Les Allemands mobilisent dans la région fortifiée d'Erdin 280 appareils. Le général Simon von Wagenheim regroupe 280 appareils qui ont vite fait, bien sûr, de chasser du ciel de Verdun tous les appareils français. Il y avait 70 appareils français à peu près dans cette région. Donc les Allemands s'adjugent de la maîtrise de l'air. Donc il faut réagir. Il faut réagir de quelle façon? Eh bien, voilà une phrase, je vais utiliser un procédé qu'a utilisé tout à l'heure. Baillez-moi le ciel, je suis aveugle. Si nous sommes chassés du ciel, alors c'est simple, Verdun sera perdu. Qui déclare cette phrase? Qui déclare cette phrase? Eh bien, c'est Philippe Pétain, qui prend le commandement de la région fortifiée de Verdun et qui fait des opérations de Verdun le 25 février, 4 jours après le début des combats. Et il le déclare à qui? Il le dit au commandant de Rose, qu'il vient de nommer responsable de l'aviation à Verdun et qui va organiser pour la première fois des groupes de combat. On a eu des groupes de bombardement organisés par De Gaulle. Eh bien là, on va avoir des groupes de combat. C'est-à-dire qu'on va avoir des unités de chasse qui vont sortir de l'armée, qui vont être regroupées de façon autonome, indépendante, à la disposition de l'état-major qui est sur Verdun. Donc c'est la création des groupes de combat autonomes, j'insiste là-dessus, et que dit l'instruction promulguée par De Rose le 29 février, donc 8 jours après le début de la bataille, vous l'avez à l'écran, des reconnaissances offensives seront effectuées suivant les taux réguliers à heure fixée. Ces reconnaissances bien exécutées en force devront être aussi nombreuses que possible. La mission des aviateurs est de rechercher l'ennemi pour le combattre et le détruire sur tous les fronts. L'objectif est de créer une zone de danger pour l'ennemi. En gros, on essaie de créer une bulle autour de Verdun, d'où on va chasser l'aviation allemande, de manière à ce que l'aviation française puisse revenir, quand je dis l'aviation française, c'est l'aviation française de corps d'armée, d'observation, de réglage de tir, pour pouvoir atteindre l'artillerie et les troupes allemandes. Deux principes donc, deux mots-clés, la permanence et la masse. Des patrouilles régulières de 3 à 5 avions donc, opèrent au-dessus du front et attaquent l'ennemi présent dans cette heure. Et puis des groupes de chasse plus importants, de 10 à 20 appareils, c'est quand même beaucoup à l'époque, 10 à 20, mènent à heure variable, pour ne pas donner des habitudes aux Allemands, à heure variable, des rondes et poussent des points offensifs jusqu'à l'intérieur des troupes des lignes ennemies pour attaquer les Aviatiques, les Fokker, les Abatus. Donc pour mettre en place cette organisation, ce groupe autonome, De Rose dispose de deux atouts, l'avion et les pilotes. L'un ne va pas sans. Alors l'avion, très rapidement, l'avion qui est la monture, on parlait de cavalerie tout à l'heure, la monture principale de la chasse française à cette époque, c'est le BB 11 Nieuport. BB parce qu'il est très compact, c'est un avion très maniable, qui a une vitesse ascensionnelle extrêmement bonne et bien meilleure que les chasseurs allemands. Voilà. Son seul défaut, eh bien, on peut le voir à l'écran, c'est encore l'armement, puisqu'il est armé alors, au début d'une mitrailleuse Hotchkiss, donc placée toujours sur le plan supérieur, qui tire 47 balles, qui va vite être remplacée par une mitrailleuse anglaise, la Lewis, qui elle tire 87 balles. Donc, ce qui permet de recharger un peu moins souvent la mitrailleuse. Donc le BB Nieuport, toutes les escadrilles françaises équipées de BB Nieuport, il y en a une 6 ou 7 à l'époque, vont passer à Verdun. Et en même temps que les escadrilles, vont passer aussi les meilleurs pilotes. Donc on va commencer par Charles de Gessel. Enfin, je ne vais pas tous les citer, Delain, Brocard, le Révérend, De Rose lui-même. On va ensuite en citer trois. Donc Charles Nagesser, qui est le Charles Nagesser de l'Oiseau Blanc, hein, qui va disparaître en Atlantique en 1927, dont on pense avoir retrouvé des morceaux. Donc il arrive à Verdun en mars, et il arrive à Verdun blessé. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, on voit Charles Nagesser avec des cannes, et bien il arrive à Verdun blessé, et il a du mal à s'installer sur son avion, et son mécanicien veut quasiment le glisser à bord. Mais c'est pas grave, il part quand même au combat. Il arrive à Verdun, il a 2 victoires, et le 4 avril, il va atteindre les 5 victoires, c'est ce qui est requis pour devenir un as de l'aviation française, puisqu'il faut 5 victoires pour être 5 victoires homologuées. Attention, 5 victoires homologuées. Homologuées, ça veut dire que l'avion ennemi est tombé dans les lignes françaises et qu'on a pu constater qu'en effet, il avait bien été abattu par le pilote en question. Donc il atteint les 5 victoires. Et il va quitter Verdun, encore une fois blessé. Il y a de la casse à l'époque, hein, chez les machines et chez les hommes. Donc il va quitter Verdun en juillet avec 12 victoires. Deuxième personnage que je veux citer rapidement, Georges Guimer. Alors Georges Guimer, je vais très vite parce qu'il va faire un passage éclair à Verdun. Il arrive à Verdun le 12 mars, il a déjà 5 victoires à son actif, donc c'est déjà un as, mais il est blessé lors de sa quasiment première sortie, grièvement blessé, le 13 mars, il va quitter le théâtre d'opération, il ne reviendra au combat, au front, que pour la Somme en juillet 1907. Et puis, celui qu'on a surnommé la sentinelle de Verdun, Jean Navarre, qui lui va obtenir quasiment la totalité de ses victoires à Verdun, toujours sur le port 11, comme vous pouvez le voir, qui sera lui aussi évacué de Verdun le 17 juin 1916. Il a à ce moment-là 12 victoires et c'est le principal, enfin, les premiers au palmarès des as français à cette époque. Ma conclusion très rapidement. Donc vous avez vu qu'on a tout inventé finalement entre 1914 et juillet 1916. Ensuite, c'est une question de spécialisation, d'avoir des matériels de plus en plus performants. Dans la suite de la guerre, donc, il ne reste plus qu'à perfectionner les innovations qu'on a faites. Le perfectionnement, c'est la division aérienne du général Duval, voilà, qui va réunir près de 600 appareils, des chasseurs et des bombardiers. Et c'est une division qui va entrer en service en avril 1918, je ne vous dis pas. Conjugué à l'arrivée de matériel aussi de qualité, des SPAD 13 et ici un SPAD 7 et des SPAD 13, les avions de chasse, et des Broquets 14 pour le bombardement. Et tout ça va nous mener, mais beaucoup plus tard, vers la création d'une armée de l'air en 1933 ou 1934.